Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Marielle Lemaître. Elle est candidate de la France Insoumise aux Européennes, 41e sur la liste LFI et seule costa-armoricaine. Il faut le préciser, c'est important. Bonjour Marielle Lemaître.
Bonjour Stéphane Hamon.
Alors nous allons parler de politique et d'Europe. J'avais envie de vous entendre ce matin sur cet incident qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale où le député Sébastien Delogu, député du groupe La France Insoumise, a sorti un drapeau palestinien, ce qui lui a valu une exclusion de 15 jours. S'en est suivi quelques incidents. Est-ce que c'était l'endroit pour montrer le drapeau palestinien, finalement, l'Assemblée nationale ?
En fait, l'Assemblée nationale, c'est le lieu qui nous représente tous, nous, les citoyens français. Et je dois vous dire aujourd'hui que je suis très fière de cette intervention de Sébastien Delogu, comme je le suis de tous les jeunes qui se mobilisent dans les universités, dans les facultés, comme je suis de toutes les associations et des différents courants politiques qui se mobilisent pour défendre la cause de ces victimes palestiniennes qui sont en train de se faire violemment, brutalement, qui sont victimes de crimes contre l'humanité. Oui, c'est tout l'honneur de notre Parlement européen, de nos députés européens, que de défendre les droits humains. Et donc, voilà, si on revient sur les faits qu'il a dénoncés, il s'agit de bombardements meurtriers de la part d'Israël sur des camps de déplacés à Rafah. Israël a demandé aux habitants de Gaza de se réfugier à Rafah dans des camps déplacés, et aujourd'hui ils les bombardent. Donc oui, je suis fière de Sébastien Delogu, je suis fière d'appartenir à la France Insoumise qui défend la cause des Palestiniens.
Alors aujourd'hui on a l'impression dans le contexte électoral du moment alors d'une complication avec ce conflit de l'autre côté de la Méditerranée, conflit entre Israël et le Hamas. On a reproché à la France Insoumise de ne pas avoir de mots pour Israël. Est-ce que c'est exact ou est-ce que finalement, le dogme de la France Insoumise, c'est de se dire qu'il y a des victimes des deux côtés ?
La position de la France Insoumise dès le départ, c'est de dénoncer les crimes de l'humanité, les crimes contre l'humanité commis des deux côtés. C'est-à-dire l'attaque du 7 octobre, on a tout de suite dénoncé ça comme un crime contre l'humanité, c'est-à-dire quelque chose de condamnable par le droit international et que quelque chose dont le Hamas aurait à répondre. Et la Cour internationale de justice nous donne raison aujourd'hui et donc avec le procureur qui demande un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou pour les crimes contre l'humanité qu'il est en train de perpétuer et contre aussi certains dirigeants du Hamas pour les crimes contre l'humanité que nous avons dénoncés suite à leur attaque du 7 octobre. Donc nous sommes complètement cohérents par rapport au droit international et au respect du droit international que l'on exige, que ce soit en Palestine et que ce soit en Europe, chez nous, en Ukraine.
Alors voilà, on va aussi parler de cette guerre en Ukraine, si on va parler de l'Europe précisément, guerre en Ukraine. Aux portes de l'Europe, l'Ukraine qui lutte contre les Russes, contre Vladimir Poutine, pour incarner ce pouvoir russe dur, brutal, et qui a attaqué l'Ukraine. Est-ce que c'est inquiétant, justement, cette guerre à nos portes aujourd'hui, dans une Europe qui fait face à une forme de défiance aussi, on le voit, on va en dire un mot tout à l'heure, les électeurs européens ne se passionnent pas pour les européennes, et y a une forme de défiance. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'Europe pourrait disparaître, en tout cas dans sa forme actuelle, comme l'a dit le président de la République d'ailleurs, il s'en est inquiété.
Je crois que le président de la République est très doué pour agiter les peurs. Il est et notamment actuellement, comme pour le Covid, le mot guerre est un mot qui lui plaît. Il aime beaucoup agiter les peurs pour nous empêcher de posément réfléchir aux faits et chercher des options politiques et démocratiques. Il a balayé d'un revers de la main, il balaye d'un revers de la main les perspectives diplomatiques qui pourraient faire revenir la paix sur le continent européen, parce qu'effectivement aujourd'hui on doit s'inquiéter de cette attaque de Poutine contre l'Ukraine, et nous devons soutenir, comme nous l'avons fait nous à la France Insoumise en votant au niveau européen le soutien à la défense ukrainienne contre l'attaque de Poutine, contre ses frontières, contre son territoire. Mais sans pour autant avoir un discours va-t-en-guerre comme celui de Macron. C'est sa politique internationale, c'est la guerre. Sa politique intérieure, c'est la guerre. On doit avoir peur, on ne peut plus réfléchir. Il nous paralyse, nous n'avons pas le choix, il nous contraint aux options qui sont les siennes. Et ça, ce n'est pas de la politique, ça, c'est de la menace. Voilà, donc nous, ce que l'on souhaite pour l'Europe, c'est un retour à la paix, c'est-à-dire réfléchir et mettre autour d'une même table les différents belligérants, parce que mettre la fin à une guerre, ça veut dire réunir les belligérants, et faire se parler entre eux des opposants armés militaires pour en venir aux conditions de la paix. Voilà, c'est notre objectif.
Le camp de la paix, finalement.
Le camp de la paix,
voilà. Avec un petit mot, hein, je reviens une seconde sur le conflit entre Israël et le Hamas. justement, cette proposition du président de la République, on a vu la France insoumise s'adresser à Emmanuel Macron en lui demandant de reconnaître l'État de Palestine. Le président a répondu en disant « pas maintenant, il faut attendre qu'on ne soit pas sous l'émotion ». Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée, finalement?
Moi, je pense que M. Macron, par rapport à la Palestine, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur du pays des droits de l'homme qu'il représente. Il n'est pas à la hauteur de l'horreur historique qui se déroule sous nos yeux. Autant je suis fière des positions de la France insoumise, autant je crains que l'histoire ne dénonce vraiment cette faiblesse de la part de monsieur Macron. Alma Dufour disait Rafah, ce n'est pas seulement une question de frontières, c'est aussi un miroir. Et comment monsieur Attal continuera-t-il de pouvoir se regarder dans le miroir après les positions qui sont prises ou qui ne sont pas prises, justement, à l'égard de la Palestine. Pardon. Est-ce que ce sera le bon moment, en fait?
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Oui,
est-ce qu'il y a un bon moment, finalement?
Il dit que ça n'est pas le bon moment, mais quand est-ce que ce sera le bon moment de reconnaître l'État de Palestine, de la Palestine? Est-ce qu'on doit attendre quand on constate, en fait, qu'il est progressivement rayé de la carte? Est-ce qu'on doit attendre qu'il soit définitivement rayé de la carte pour le reconnaître comme un État occupé? Ce matin, Ronnie Broman disait sur France Culture que la reconnaissance de l'État d'Israël, c'était le premier pas pour pouvoir faire entrer dans le droit international la question de l'occupation de cet État. Donc c'est au contraire pour lui le premier pas pour qu'une résolution puisse être trouvée, une solution pacifique puisse être trouvée à ce conflit. Voilà, donc Macron, il est à côté de la plaque, je dirais.
Alors, on va revenir à l'Europe. Voilà, je voulais vous entendre sur la réaction du président de la République. On va revenir à l'Europe avec cette liste LFI portée par Manon Aubry. Liste qui s'appelle l'Union populaire. Alors, aujourd'hui, l'Union populaire, c'est aussi... Non, populaire, il y a le peuple. Et c'est aussi le peuple qui a du mal à vivre. On pense au pouvoir d'achat. On pense aux difficultés pour se loger. On pense à l'énergie. Est-ce que ces grandes thématiques doivent être traitées aujourd'hui par l'Europe, ou est-ce que la France doit peser tout son poids? Alors après, on parlera des territoires, mais est-ce que l'Europe doit s'emparer de, et en tout cas les députés européens doivent s'emparer de ces grandes thématiques pour finalement que les Européens arrivent à mieux vivre?
Tout à l'heure, vous disiez que le scrutin européen, c'est quelque chose qui ne mobilise pas. Ça ne mobilise pas l'électorat français, notamment, mais c'est parce que c'est une institution complexe, peu démocratique.
Les gens ont du mal à comprendre le fonctionnement.
Tout le monde a du mal à comprendre le fonctionnement. Et c'est un fonctionnement aussi peu démocratique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, s'il y a une chose simple à comprendre, c'est que les règles qui sont décidées au niveau européen ont des impacts très concrets sur nos vies quotidiennes. Quand on entend aujourd'hui le ministre de l'économie français nous dire qu'il faut des règles d'austérité, mettre en place un grand plan d'austérité, à nouveau encore... c'est parce qu'il déroule, en fait, les consignes, les contraintes qui sont imposées par une règle européenne qu'on appelle la règle des 3%, en fait, un taux de déficit à ne pas dépasser pour respecter un pacte de stabilité et de croissance complètement artificielle.
La déjà, France l'a dépassé déjà.
C'est voilà. Ça.
5,5%.
J'ai perdu une part de nos auditeurs avec tous ces mots un peu complexes. Et ces chiffres qui ne signifient rien. En fait, l'Europe nous dit vous devez diminuer vos dépenses, ce qu'ils appellent des dépenses, une dette, et que nous, on appelle un investissement, c'est-à-dire le social, la santé, l'éducation. Nous sommes un pays riche, nous sommes un continent riche, nous n'avons pas lieu à nous retrouver avec des hôpitaux qui ne peuvent pas nous soigner, avec des hôpitaux auxquels on ne peut plus accéder la nuit. Donc l'investissement social, l'investissement pour notre santé, c'est une urgence. Et monsieur le maire se trompe quand il pense que c'est dans la poche des chômeurs qu'il va trouver les milliards qui lui manquent. Nous avons depuis 3 ans nous constatons une augmentation du nombre de pauvres en France. En France, nous sommes aujourd'hui à 19 millions de nos concitoyens qui sont sous le seuil de pauvreté.
Avec des associations qui peinent justement à aider tout le monde.
Voilà, nous n'arrivons pas à la réforme du chômage là, qui est récemment annoncée, la troisième réforme du chômage, mais elles vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire... punir les pauvres, hein, c'est ça le programme. Il faut punir les pauvres pour qu'ils s'en sortent. Et en fait, c'est complètement à rebours de ce que disent les économistes, c'est-à-dire qu'on a vu au contraire le taux de chômage augmenter en France, plus 200 000 chômeurs en France, malgré ces deux réformes précédentes et la troisième qui s'annonce. On ne voit pas en quoi elle va faire infléchir la courbe dans le bon sens, puisque ce sont toujours les mêmes règles qu'on applique.
Il y a une forme d'injustice finalement à aller se tourner vers les plus pauvres pour essayer de compenser la dette.
Une injustice fondamentale, je vous disais, donc sur les 3 dernières années, on a vu le nombre de pauvres augmenter, on a vu aussi le nombre de milliardaires augmenter. On a vu le nombre de milliardaires augmenter en France et on a vu leur richesse se multiplier. Alors, j'ai le chiffre, je vais vous le dire. Parce que moi, c'est des chiffres qui me dépassent. J'ai du mal même à imaginer ce que ça représente. La fortune, ces 3 dernières années, la fortune des milliardaires français a augmenté de 230 milliards d'euros. Et aujourd'hui, monsieur le maire est à la peine pour en trouver 10, 20. En fait, il nous dit dans les deux ans, il faut que les chômeurs, là, on lui donne 50 milliards d'euros. Les chômeurs, les travailleurs, les salariés, les smicards, il faut qu'on lui trouve 50 milliards d'euros. Bon, je vais lui dire, hein, je vais l'informer quand même, nos milliardaires, là, ils viennent d'augmenter leur fortune, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà milliardaires avant, et ils viennent d'empocher 230 milliards. 230, ça fait plusieurs fois 50. Normalement, ils devraient y arriver.
Il faut justement, au niveau européen, poser des règles, des règles de solidarité européenne ou de solidarité nationale si on parle des entreprises françaises. Est-ce que, par exemple, il faut taxer Total, qui menace d'ailleurs de s'implanter ailleurs si on lui demande un peu trop de sous?
Je crois que la réponse, elle est dans la question. Évidemment qu'il faut taxer Total, il faut taxer les super-profits, il faut taxer les ultra-riches, pour qu'ils contribuent à l'effort collectif. Et ils ont tout à gagner à ce que, l'économie redémarre, si les pauvres sont moins pauvres. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut plus de justice sociale, il faut plus de justice fiscale au sein de notre marché commun. Comment est-ce qu'on peut envisager un marché commun européen sans que les salaires soient... cohérent, c'est-à-dire que si on a des pays où le SMIC est à 900 euros et des pays où le SMIC est à 1500 euros, on met en concurrence les salariés eux-mêmes au sein de ce marché commun. Donc il faut sortir de ce dumping social et il faut instituer un salaire minimum européen. Voilà, et nous, on aura tous à y gagner. De même, il faut plus de justice fiscale et arrêter de mettre des pays en compétition les uns avec les autres sur leur régime d'imposition.
Donc, une Europe sociale qui sera dure à construire, parce qu'on imagine que 27 pays, on n'entend pas les mêmes voix dans chaque pays, et avec des disparités, vous l'avez souligné, Marielle Lemaître, des disparités, effectivement, on a des pays comme l'Ukraine, on parlait de l'Ukraine tout à l'heure, si demain l'Ukraine entre dans l'Europe, le salaire ukrainien, en tout cas le SMIC ukrainien, est très différent du SMIC français. Il faudra discuter, il faudra des accords, il faudra batailler ferme pour arriver à créer cette Europe sociale sans trop de disparités entre les différents pays.
L'élargissement des 27, de l'Union des 27 à d'autres pays, ça doit absolument se faire sur des garanties à la fois sociales à l'intérieur de ces pays qui vont intégrer donc notre dynamique économique commune, sociale, économique, de respect des droits humains, de respect aussi du vivant et des conditions de production pour pas que nos agriculteurs se trouvent avec des normes nationales qui sont légitimes et qui sont nécessaires, mais qui se trouvent en compétition avec des produits qui ne respectent pas ces normes-là et qui peuvent être beaucoup moins coûteux à produire. Donc oui, avant tout élargissement, il faut qu'on soit en accord sur les règles et les normes sur lesquelles on s'entend.
Avec évidemment cette inquiétude au niveau de l'Ukraine, l'inquiétude des agriculteurs qui sont toujours en colère et toujours en lutte. Hein. On les voit peut-être un peu moins dans les rues actuellement, mais il y a toujours des inquiétudes. L'Ukraine, c'est la PAC, c'est 13 milliards d'euros qui pourraient être versés demain à l'Ukraine, au détriment justement des agriculteurs européens et sans doute français. Là aussi, il faudra des règles drastiques.
Au sujet de l'agriculture, moi j'avais envie de vous parler du vote de la loi d'orientation agricole qui a eu lieu hier soir au Parlement national et justement mettre en évidence que les exigences des agriculteurs sur leurs revenus, qui portaient principalement et tout à fait légitimement sur leurs revenus, n'ont pas du tout été entendues. On continue au contraire de soutenir une agriculture productiviste ancrée dans une guerre de tous contre tous, qui est celle des traités de libre-échange internationaux, principalement. Donc, et ces traités de libre-échange, ils imposent à nos agriculteurs, eh bien, soit la faillite, soit de devenir eux-mêmes des super productions, des super producteurs, des usines à production. C'est pas du tout le modèle que nous voulons défendre, d'une part parce qu'il n'est pas soutenable écologiquement, et d'autre part parce que il ne garantit pas aux agriculteurs de pouvoir vivre dignement de leur travail.
Ça, c'est la fin finalement des petites exploitations.
C'est la fin des petites exploitations, la fin des exploitations familiales, la fin d'une agriculture à échelle humaine. On a récemment soutenu la démarche de deux associations sur Plestin-les-Grèves, des associations de défense de l'environnement qui ont demandé un recours contre l'installation d'un poulailler à 180 000 emplacements. Ça ne veut pas dire 180 000 volailles par an, ça veut dire 3 à 4 fois 180 000 volailles par an.
C'est plusieurs volailles évidemment dans chaque emplacement.
Et puis c'est pas pour ça, c'est parce qu'il y a une volaille par emplacement, mais par contre on est sur des volailles qui vont devenir adultes et vendables en 3 mois. Donc voilà, sur un an, C'est de la volaille de mauvaise qualité. Et sur un an, on va en produire 3 fois 180 000. Donc, autant de déjections qui vont devoir être évacuées sur donc une zone, la lieu de grève, où on a déjà beaucoup de mal à maintenir notre écosystème. Donc voilà, nous, l'agriculture qu'on défend, c'est pas celle-là, en fait. Voilà.
Ça nous amène au problème de l'environnement. On parlait tout à l'heure, dans le courant de la matinale, de réchauffement climatique, où dans certains endroits, on commence près des côtes, on commence à s'inquiéter de la possible montée des eaux pour les bâtiments qui sont proches, ou les résidences qui sont proches. Aujourd'hui, c'est un véritable enjeu, l'environnement et le réchauffement climatique. On voit beaucoup de jeunes qui s'engagent, même parfois en politique, pour essayer de défendre ce qui est encore défendable. Quelle est la position de l'EFI justement sur l'environnement? Quelles sont les grandes lignes, hein, je ne vais pas vous demander tout le programme de Manon Aubry, mais les grandes lignes que vous défendez en termes d'environnement?
Alors, j'aimerais dire que je suis en train de chercher le nom, en fait, là. Je suis désolée.
Je vous en tourne en direct.
Je ne vais pas le retrouver parce que c'est la première fois que je suis interviewée à la radio.
C'est votre première radio, mais ça va aller. Ça va aller, ne vous inquiétez pas.
Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une association de défense du climat qui a souligné la pertinence et l'ambition du programme des Insoumis au niveau européen pour la défense du climat, par rapport même à d'autres programmes qui s'annonceraient plus écologiques, en tout cas...
On pense à la liste des écologistes, entre autres.
Oui, par exemple. Le problème des écologistes, c'est qu'ils appartiennent à un groupe au niveau européen qui n'ont pas tous la même vision de ce que doit être l'écologie et qui ne se détachent pas justement de la dimension économique capitaliste, qui ont signé notamment les accords de libre-échange, et ils se trouvent appartenir à un groupe qui est dans des positions intenables du point de vue écologique, c'est-à-dire à la fois défendre des accords de libre-échange qui spolient complètement la planète et défendre un programme écologique. Dans le groupe européen que préside Manon Aubry, a voté contre, c'est le seul groupe à avoir voté contre tous les accords de libre-échange. Donc, du point de vue écologique, c'est le seul groupe qui a tenu une position ferme par rapport à la protection du vivant sur le plan économique.
Il faut justement décorréler l'écologie de l'économie de marché. Il faut trouver une autre voie pour l'écologie aujourd'hui.
Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que les jeunes qui nous rejoignent défendent, c'est que on doit absolument porter un programme de rupture, un programme de rupture économique. Le capitalisme n'est pas bon pour la planète. Je crois qu'aujourd'hui, on le sait, on le constate, et donc il faut fermement le décider. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, parce que nous avons un programme qui est à la fois économique, politique et écologique. Il y a une cohérence. Mmh. Il y a une cohérence dans cette rupture.
Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de migration, des migrants, celles qui arrivent sur notre territoire, qui poussent les portes de l'Europe pour dire, voilà, on veut venir vivre mieux en Europe, avec aussi tous les problèmes que ça génère, comment accueillir les migrants. Alors, il y a plusieurs thèses qui s'affrontent, construire des murs, construire des frontières, renvoyer les migrants chez eux. On ne voit pas le bout du tunnel dans cet accueil des migrants aujourd'hui. La position de l'EFI, on l'aura compris, est plutôt un accueil important des migrants. On voit par exemple l'extrême droite de son côté qui refuse l'entrée avec des problèmes de sécurité invoqués, voire même des problèmes de terrorisme. Comment faire avec cette question des migrants? Comment les accueillir aujourd'hui ou pas justement?
Je pense qu'on a parlé tout à l'heure de l'injustice sociale que les Européens subissent. Parce qu'il n'y a pas que les Français, en fait, qui subissent cette injustice sociale et cet appauvrissement, ce déclassement des classes moyennes. On se retrouve avec des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ne sont même pas sûrs de pouvoir atteindre l'âge de la retraite en bonne santé. Donc on a un vrai déclassement à l'intérieur de nos frontières. Donc certains agitent l'arrivée de plus pauvres que nous pour, comme risque pour encore nous tirer plus vers le bas. Or, c'est pas là la cause de notre déclassement, elle n'est pas là, elle n'est pas du côté des plus pauvres, elle est du côté des plus riches qui sont toujours plus riches, comme on le disait tout à l'heure. Et ceux dont vous parlez sans les nommer, l'extrême droite, qui nous disent « on va fermer les frontières et vous verrez, vous serez plus heureux », n'attaquent absolument pas ces plus riches qui sont pourtant à la cause même de notre appauvrissement. Donc la fermeture des frontières, on le voit bien avec l'Italie qui a élu une équipe d'extrême droite à sa tête, sur la question de la fermeture des frontières. L'Italie s'en sort pas parce qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre.
Madame Meloni
rétropédale sur ses positions parce que pour faire tourner son économie, elle a besoin de main-d'œuvre, elle a besoin de ces étrangers qui viennent travailler sur le territoire européen. Ils viennent pas vivre bien des allocations, ils viennent travailler pour avoir un salaire. C'est ça leur objectif. Hein. Aujourd'hui, dire que c'est la fermeture des frontières, c'est la peur de l'étranger qui doit être une solution, bah non, dans les faits, ceux qui ont tenté cette solution, on voit bien que ça ne fonctionne pas. La solution n'est pas là. Notre programme, c'est pas de faire ce que certains nous reprochent, un appel d'air, c'est absolument pas ça. Il est à deux niveaux. Au niveau international, c'est de permettre que les gens vivent bien là où ils sont, et donc cesser l'exploitation, contrôler plus l'exploitation des richesses en Afrique. L'Afrique est un continent extrêmement riche. Si ce n'était pas le cas, personne ne s'y intéresserait.
Or, Chine, la Russie, entre autres.
Tout le monde est intéressé d'investir en Afrique. Et la Chine,
la France, les Russes... La France paie quand même aussi son passé colonial en Afrique.
La France paye son passé colonial en Afrique. Je voudrais juste dire ici que moi, je reviens d'Afrique, justement. J'y étais ces derniers jours. Et je peux vous dire qu'en tant que Française, j'étais très bien accueillie. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien contre nous, les Français. Ils ont quelque chose contre la politique coloniale qui n'en finit pas de finir. Mmh. Voilà. Et l'exploitation qu'on continue, que certains Français continuent d'exercer là-bas. Exploitation qui n'est possible que par aussi l'achat entre guillemets de leurs dirigeants. Et donc ils mettent dehors leurs dirigeants corrompus, ils mettent dehors les multinationales qui les exploitent. Il y a un accord européen par exemple avec le Sénégal qui permet aux navires de pêche européens d'exploiter la pêche sur les côtes sénégalaises. Les pêcheurs sénégalais traditionnels, eux, ne peuvent plus vivre parce que les richesses en poissons sont prises par nos navires européens. Il faut sortir de ces accords économiques qui sont des accords d'exploitation, en fait.
Voilà, de la coopération, mais pas d'exploitation.
De la coopération, pas d'exploitation, qui leur permettent de rester chez eux, vivre chez eux dignement. Et ceux qui seront prêts à travailler, par exemple, nous avons plein de médecins étrangers qui seraient intéressés de venir travailler chez nous. Ben là, on doit avoir absolument une politique beaucoup plus ouverte que celle qu'on a aujourd'hui.
Voilà, d'autant qu'on manque de médecins. Un tout dernier mot, il reste 30 secondes, sur la montée du Rassemblement National. 34% donné pour Jordan Bardella, ça reste du sondage, évidemment, on est d'accord. Est-ce que ça vous inquiète ?
La colère de ceux qui sont tentés de voter Rassemblement National, on a déjà démontré par l'injustice sociale qu'elle est juste, cette colère. La solution, par contre, on a eu les rois fainéants, maintenant on aurait les députés fainéants. Je ne vois pas en quoi c'est une solution.
Et ce matin, nous étions en compagnie de Marielle Lemaître pour l'interview politique de la matinale. Marielle Lemaître est candidate de la France Insoumise aux Européennes, 41e sur la liste LFI conduite par Manon Aubry, liste de l'Union Populaire, et seule costa-mauricaine. Et c'était sa première radio ce matin, c'était votre première radio, et ça s'est très bien passé.
Merci, merci beaucoup de votre accueil.
Et très belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.